Hello, hello et bienvenue dans l'édition 118 de Le Comment du Pourquoi, ta newsletter hebdomadaire de curation, innovation, tech et business. Nous sommes le lundi 3 avril 2023 et vous êtes plus de 1400 à lire la newsletter. Si tu découvres cette version audio, n'hésite pas à t'abonner, c'est dans les notes d'épisode. Alors le rendez-vous LinkedIn Live de mercredi midi sera cette semaine autour de la structuration de ton équipe CSM, parce qu'une fois la croissance enclenchée, l'hypercroissance vient aussi de tes upsells, cross-sells et autres parrainages. D'ailleurs, on m'a demandé si Mangomind devenait ma seule activité, mais non, puisque je suis slasheuse encore et toujours. Je suis DG du groupe Keop Media à temps partagé. J'accompagne des dirigeants en mode sparring partner, speed consulting ou au long cours. Je suis conférencière et j'anime des masterclass sur des événements. Et oui, je co-construis, co-lance et co-anime Mangomind avec Alexia pour rendre ton hypercroissance rentable sans yaka faucon ni bullshit. Au fait, je suis aussi dans un board et dans plusieurs comités stratégiques de start-up, donc n'hésite pas à me contacter, tous les liens sont dans les notes d'épisode. C'est la fin de cette parenthèse autopromo. Alors à la une de la semaine, la levée de Hisar, une belle avancée de la space tech. On parle aussi influence, Substack, Alibaba, TikTok, Amazon et bien sûr la minute IA. Et évidemment, la femme à suivre. Alors on commence avec la semaine dernière sur Twitter. Webhelp s'est vendu, Ledger a levé 100 millions d'euros. J'adore les nouveaux emojis qui sont sortis. Apparemment, le Web3 n'est pas mort. Accenture licencie 19 000 salariés. Kering s'engage dans la sustainability. Apple lance enfin son BNPL et va bientôt sortir son casque VR. J'ai trouvé la preuve que tu as un temps d'avance en lisant cette newsletter. Disney commence les licenciements qui vont monter jusqu'à 7 000 personnes par leur division Web3. Donc peut-être qu'en fait, le Web3 est mort. Tu vois le lien ? Et côté Twitter, le code source a fuité, les chèques bleus historiques ont normalement disparu le 1er avril et la Maison Blanche ne paiera pas pour le chèque doré, mais je te reparle du chèque doré dans un instant. On passe au à la une. Le 28 mars, l'allemand Hisar Aerospace a annoncé une levée record pour la space tech européenne, 155 millions d'euros en série C, pour un total de 330 millions d'euros levés en 5 ans. La même semaine, Virgin Orbit a annoncé ne pas avoir réussi à lever et a donc licencié 85% de son staff. Comme je ne connais rien à la space tech, j'ai demandé à Lucie d'écrire la rubrique. Voilà ce que nous dit Lucie. Qui est Hisar Aerospace? Fondée en 2018 en essaimage de l'Université technique de Munich, TUM, la start-up de 200 personnes développe une fusée, Spectrum, permettant de mettre en orbite des petits et des moyens satellites. Le premier vol test est annoncé pour fin 2023. Pourquoi cette levée de fonds change drastiquement les dynamiques économiques et politiques spatiales en Europe? Le segment des lanceurs spatiaux est très particulier car soumis à deux gros enjeux. Premier enjeu, la souveraineté de l'accès à l'espace. Actuellement, l'Europe n'a plus de lanceurs opérationnels. Le retard d'Ariane 6, combiné à la perte au lancement de la fusée Vega C en décembre 2022, prive l'Europe temporairement d'accès à l'espace souverain. Les deux autres nations avec lesquelles l'Europe avait des accords d'utilisation de leurs lanceurs étaient la Russie et les USA. Il ne reste donc plus que l'option américaine pour envoyer des satellites en orbite. Deuxième enjeu, la performance en termes de coûts. Les prix du transport d'un objet dans l'espace influent fortement sur le prix des services associés revendus sur Terre. Internet par satellite, images d'observation de la Terre, etc. Sans coût d'accès à l'espace raisonnable, pas de business model rentable pour toute la chaîne de valeur industrielle qui en découle. Il y a donc actuellement une forte volonté politique, à la fois au niveau européen et national, de faire très rapidement émerger un ou plusieurs acteurs commerciaux compétitifs sur ce segment, ce qui se transcrit en millions d'euros d'argent public injectés. De plus, la space tech, et en particulier les fusées, fait toujours rêver, et malgré l'extrême complexité technique liée au développement d'un tel système, les investisseurs privés espèrent l'émergence d'un nouveau SpaceX. La course aux fusées est donc lancée. Dans ce contexte, l'annonce de la levée record d'Hisar Aerospace a deux conséquences immédiates. Pour l'Allemagne, qui a une politique de champion national, les deux autres projets encore en développement, RFA et High Impulse, voient leurs concurrents directs être 10 ou 20 fois mieux financés. Il est donc compliqué de prédire l'avenir de ces deux sociétés. Pour le reste de l'Europe, et en particulier la France, quelle va être la stratégie de soutien des startups françaises? La France va-t-elle mettre les bouchées doubles pour soutenir un des projets encore en lice? Si oui, lequel ou lesquels? Dans les possibles candidats, on retrouve Latitude, MayaSpace, Dark, Sirius Space Services ou encore Hyperspace. Et enfin, quelle va être la réaction du capital risque dans un contexte de récession sur ce secteur très capitalistique, autant de développement long et extrêmement risqué? C'est tout pour le à la une, on n'a pas encore les réponses à ces questions et on passe tout de suite à la sélection. Ça pue. Dans leur course pour satisfaire leurs actionnaires, les géants de la tech ont oublié l'expérience utilisateur, un excellent article de Business Insider. Day Influence. Tu as entendu parler de la lettre signée par des influenceurs puis dénoncée par les mêmes influenceurs? Squeezie t'explique l'histoire en 9 minutes sur son compte TikTok. Pas besoin d'avoir un compte pour regarder la vidéo que je te mets dans les notes d'épisode. L'avenir de Substack. Substack n'a pas réussi à lever auprès des VC et a donc lancé un financement participatif auprès de ses utilisateurs. Il devrait arriver à 5 millions de dollars, qui est le maximum autorisé. Mais est-ce que c'est viable ? Algorithme. Si Tinder veut continuer à gagner de l'argent, il ne faut pas que tu trouves ton âme sœur. Il faut que tu la trouves presque, mais pas tout à fait. C'est un excellent article de Evry. Le cadeau de la semaine, c'est Ryan Broderick de Garbage Day qui pense que Internet traverse la crise de la quarantaine des moguls de la Silicon Valley. Il tient quelque chose, je pense. Une vidéo de 25 minutes qui nous rappelle que regarder le passé, c'est préparer l'avenir. La minute IA qui aurait plutôt tendance à être 2 minutes en ce moment. Les annonces dans l'IA ont encore été nombreuses cette semaine. Microsoft lance un assistant pour la cybersécurité. Google s'associe à Replit pour leur assistant de code. Il s'associe d'ailleurs aussi à DeepMind. Glaze propose un moyen pour les artistes de perturber les IA pour qu'elles ne puissent pas utiliser leurs créations. Hugging Face a sorti Fair Diffusion, un outil qui corrige les biais des IA génératrices d'images de profession en ajoutant parité et diversité. Et en parlant diversité, Levi's a connu un énorme bad buzz en annonçant s'appuyer sur l'IA pour générer des mannequins plus divers. Bad buzz du genre, mais pourquoi ils ne les embauchent pas, les mannequins divers ? Côté usage, on a appris que les IA pouvaient aider à détecter les signes de vie sur les autres planètes. Elle aurait pu prédire la chute de SVB avec les infos de 2021. L'usage en politique pose question. Certains tombent amoureux de leur IA et sont heurtés quand une mise à jour perturbe leur conversation. Un nouvel outil permet de résumer un meeting pour ne pas avoir à y aller. Mais si plus personne n'y va, que restera-t-il à résumer ? Est-ce que tu savais que Jarvis de Iron Man est un acronyme pour Just a Rather Very Intelligent System ? L'article dans lequel je l'ai appris sera dans les notes d'épisode. A-t-on vraiment besoin d'IA partout ? Il y en a vraiment partout. Antler avait proposé son Generative AI Landscape en décembre dernier. France Digital propose sa version française, résumée par Les Échos. Les grands débats de la semaine étaient autour de l'Open Letter, que tu peux encore signer dans le lien et dans la newsletter, qui a déjà été signé par des grands noms, Elon Musk en tête, pour demander un moratoire de 6 mois sur le développement de l'IA. Yuval Harari, qui l'a signé, va même jusqu'à dire qu'on n'a plus de pilule bleue. Il y a donc aussi des factions dans la Silicon Valley. Bien sûr, il faut prendre du recul et se poser la question de l'intérêt caché de certains signataires qui sont en fait en retard sur leurs propres recherches. J'avais prévu de faire la blague sur « mais qui sont leurs réseaux ?» mais Benoît l'a fait dimanche matin. Il reste sans doute peu de temps avant qu'on arrive à la réelle menace. L'AGI, Artificial General Intelligence. Sam Altman en parle au micro de Les Friedman dans ce podcast de 2h25, mais il est chapitré. Ah, et puis l'Italie a interdit ChatGPT, mais ça n'inquiète pas grand monde. Pour que tu te fasses ta propre opinion, je te propose plusieurs essais. Le second âge d'or de l'IA, de Fred Cavazza. L'irrésistible ascension d'OpenAI par Nathan Bashes. Les 5 révolutions de l'IA par Laodice Ménard. Et une histoire de l'IA, parce qu'il faut toujours regarder le passé pour appréhender le futur, non ? C'est ce qu'explique très bien Yann LeCun dans son thread sur pourquoi il ne signe pas l'open letter. On arrive au en vrac. Alibaba devient une holding qui va piloter 6 sociétés différentes. Jack Ma est de retour et la France ne pèse que 1,60% du e-commerce mondial. Toujours de saison, si tu n'es pas dans la liste des VIP boostés par Twitter, est-ce que ça vaut le coup d'acheter le chèque doré à 1 000 $ par mois ? Une vraie question. La dernière fonctionnalité TikTok pour les marques, créer son propre branded effect. En best practice, tout ce que tu as toujours voulu savoir sur le product-led marketing. Et le pitch deck, cet exercice délicat, avec le template de Sean Puri et une vidéo pour t'expliquer comment l'utiliser. Le template est dans les notes d'épisode. L'accélération du scale, est un moment complexe, voire dangereux pour les startups. Quelques conseils que je te mets aussi dans les notes d'épisode. Sinon, tu peux aussi t'inscrire à la newsletter de MangoMind pour rendre ton hypercroissance rentable. Le nouveau critère de ciblage sur YouTube pour choper les Gen Z, la musique qu'ils écoutent. Pour mieux gérer son service client et combattre les faux avis, Amazon a décidé de prévenir les clients quand il y a eu beaucoup de retours sur un produit. Peut-être une nouvelle mode pour les marketplaces. Instacart a lancé de nouvelles fonctionnalités pour que les marchands puissent gérer leur propre programme de fidélité. Je publie sur la fidélisation chaque lundi sur LinkedIn, mais ce n'est pas que moi qui le dis que la fidélisation est enfin tendance. J'ai découvert Breakroom grâce à Nash Hughes. Résumé des discussions, liste d'attente pour prendre la parole, mise en avant uniquement des speakers. C'est gratuit pour l'instant, donc à tester. C'était quoi déjà l'article que j'ai lu cette semaine qui parlait d'une levée dans la space tech ? Rewind ne fonctionne que sur Mac, parce que les données ne quittent pas ton ordinateur. C'est ça le vrai second cerveau, non ? C'était le dernier outil de la semaine. On termine avec la femme de la semaine, évidemment c'est Lucie Campagnolo qui a rédigé le à la une et qui a un job canon. Elle pilote un accélérateur qui investit dans les startups. En gros, elle identifie les startups les plus prometteuses, les accompagne et la finance, mais uniquement dans la space tech. Voilà, cette édition est terminée. N'hésite pas à t'abonner si tu veux retrouver l'intégralité des liens. Et je te dis à la semaine prochaine.